Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Roxane Lundy, conseillère municipale de Beauvais, membre de la direction nationale de Génération. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le Sénat a voté l'article 7 qui recule l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Les syndicats, eux, n'ont pas été reçus par le président Macron comme il l'espérait. Que vous inspire ce vote des sénateurs de droite avant le passage de la loi prochainement à l'Assemblée nationale ?
Écoutez, j'ai le sentiment qu'il y a une déconnexion complète entre la majorité du pays qui aujourd'hui se mobilise contre cette réforme des retraites, qui évidemment va précariser, pénaliser et voler des années de vie à une partie de la population, puisqu'il faut bien le dire, il y a une vraie inégalité aujourd'hui quant au départ à la retraite. Et donc on a une majorité du pays qui se mobilise, et face à ça, on a des sénateurs de droite qui, eux, par ailleurs, bénéficient d'un régime spécial et qui expliquent au reste du pays qu'ils vont devoir travailler plus longtemps. Donc c'est tout simplement incompréhensible et je pense que malheureusement, on voit bien la déconnexion qui existe aujourd'hui.
Est-ce que ce vote des sénateurs signifie que cette réforme va passer malgré l'opposition des Français et la mobilisation des syndicats ?
Vous savez, je pense que là, aujourd'hui, l'obsession que nous devons avoir, c'est celle de la mobilisation. Le président Macron et la Macronie, plus généralement, a organisé, depuis des années, une forme de burn-out démocratique. Ils ont organisé la résignation avec un discours qui consistait à dire qu'il fallait faire de la politique autrement et qui finalement aura conduit à une chose, à un Parlement qui n'aura jamais été aussi méprisé et à des corps intermédiaires et à des syndicats qui n'auront jamais été aussi humiliés. Donc je pense qu'aujourd'hui la clé c'est la mobilisation parce que c'est la plus belle des réponses à la résignation sur laquelle ils misaient. Et je crois que là, il se passe quelque chose dans le pays. Nous avons des mobilisations qui sont inédites, c'est d'une ampleur nouvelle et je pense qu'on peut vraiment se féliciter du front syndical, de cette unité syndicale qui aura permis ça. Et derrière, il y a une responsabilité qui est celle de l'unité politique qui vise à donner aujourd'hui un débouché clair parce qu'il n'est pas normal que la majorité du pays soit opposée à une réforme et que malgré tout, le gouvernement considère qu'on peut s'asseoir dessus. Donc la mobilisation, c'est vraiment la clé.
Qu'en est-il justement de la mobilisation dans votre ville de Beauvais ? Il y a eu des rassemblements dans des villes proches qui ont très peu l'habitude de voir des manifestations.
Vous savez, c'est finalement, nous sommes en train de vivre à la fois le pire et le meilleur. C'est-à-dire qu'on a une réforme, évidemment, qui est une réforme tout à fait indigne. Et face à cela, la mobilisation, le regain d'espoir est quand même assez émouvant. Et oui, alors à Beauvais, il n'y a jamais eu autant de monde depuis des années et des années. Certains me disaient que vraiment, ils s'attendaient pas à ça. Enfin, vraiment, depuis le début de la mobilisation, ça monte de jour en jour. Et nous étions plus de 10 000, presque 15 000 à la dernière mobilisation. Et nous voyons en manifestation de nouveaux visages, des personnes qui s'engagent, qui décident que pour la première fois, elles vont manifester. Et un moment particulier d'émotion, c'est une retraite au flambeau qui a été organisée pas très loin de Beauvais, à Saint-Just-en-Chaussée, qui est une petite ville où il n'y avait pas eu de manifestation depuis 1968. Voilà. Nous étions 300 personnes dans la rue à Saint-Just-en-Chaussée, un jour de grève. Et donc on voit bien qu'il se passe quelque chose dans le pays et que la majorité du pays n'est pas prête à se laisser marcher dessus, comme elle l'est depuis des années. Et là, il y a un nom qui est un nom clair. Et la mobilisation continuera jusqu'au retrait. Parce qu'il y a une personne qui peut décider de retirer ce projet de loi, une personne qui peut décider d'arrêter le blocage du pays, c'est Emmanuel Macron. Et il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et entende la colère et entende le refus de la majorité de la population.
Roxane Lundy, est-ce que l'inflation, notamment des produits alimentaires, peut décourager les grévistes de poursuivre leur mouvement, puisque faire grève coûte cher ?
Tout à fait, faire grève coûte cher et je pense que c'est important de le redire parce qu'on a entendu ces derniers jours de la part du gouvernement les pires éléments de langage. On nous a expliqué que la majorité du pays allait être bloquée par les grévistes, que nous serions responsables finalement de tous les maux du pays. Vraiment, c'était presque risible cette tentative de dramatisation. Mais vraiment, il faut le rappeler, faire grève d'abord c'est un droit. c'est un droit essentiel dans notre démocratie, mais c'est aussi un acte qui est un acte pas toujours facile, parce que c'est perdre des heures, des mois, des jours de salaire, et on voit bien, la grève se poursuit, donc ça fait plusieurs jours maintenant que les grévistes qui se mobilisent perdent du salaire, alors que la vie est de plus en plus chère et que l'inflation n'aide pas. Et donc c'est un acte qui est un acte courageux, et je pense qu'il faut replacer dans le débat le curseur et redire qu'en effet, faire grève, c'est un acte qui est un acte important aujourd'hui pour notre démocratie et c'est un acte courageux.
Alors, il y a la mobilisation dans la rue, mais vous comptez aussi sur les députés pour bloquer cette réforme. Est-ce que cette réforme pourrait ne pas passer avec la majorité relative d'Emmanuel Macron ?
Écoutez, on a un président de la République qui se retrouve dans une situation absolument inédite. Puisque d'abord, la première défaite d'Emmanuel Macron, c'est cette élection législative, avec un message qui a été très clair de la part des Français, le refus de lui donner les pleins pouvoirs, avec une volonté d'avoir un Parlement qui serait un Parlement fort et qui pourrait se faire entendre et mener des batailles. Donc ceci doit être respecté, parce que ça a été la volonté des Français à l'occasion de l'élection législative qui s'est tenue l'année dernière. Et donc aujourd'hui, la responsabilité des parlementaires, c'est de mener cette bataille, qui est une bataille essentielle, et de faire entendre la voix de la majorité de la population. Je constate une chose, tous les outils, tous les moyens doivent être utilisés, parce qu'il y a une mobilisation qui est claire et qui donne une feuille de route très claire aux députés, qui est « nous ne voulons pas de cette réforme, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous y opposer ». Et donc ça vaut dans la rue, par la mobilisation, par des blocages de ronds-points, par des piquets de grève, et ça vaut également à l'Assemblée nationale, parce que ce qui se passe aujourd'hui est très grave. Et le fait que nous ayons toutes les tentatives de la part du gouvernement pour éviter le débat au Parlement, parce que quand même c'est ça qui s'est passé. Il y a une volonté de la part du gouvernement d'avoir un débat qui serait le plus court possible, en refusant même le débat le dimanche. Alors, c'est bien la première fois que la Macronie est opposée au travail le dimanche. Voilà, c'est quand même une surprise. Et tout a été fait pour empêcher le débat. Ce débat doit avoir lieu. C'est un débat démocratique. En République, c'est important que nous puissions avoir des débats loin de la caricature, loin de la stigmatisation. Et donc pour ça, nous avons besoin en effet qu'au Parlement, tous les députés s'emparent du débat. Ils peuvent être pour, ils peuvent être contre. Évidemment que nous soutenons toutes les formes d'opposition à cette réforme, mais il faut au moins que le débat puisse avoir lieu. Il faut qu'il y ait une forme de dévoilement et que chacun se positionne clairement et dise si oui ou non, il est pour ou contre la réforme des retraites du président de la République.
Roxane, lundi, parlons de l'inflation. Le gouvernement a laissé le soin aux hypermarchés de présenter des listes de produits à bas prix. Selon des associations de consommateurs, un produit proposé sur trois est trop gras, sucré ou salé. Quel regard portez-vous sur la réponse du gouvernement à l'inflation des produits alimentaires ?
Eh bien, aujourd'hui, il n'y a finalement pas de réponse du gouvernement à l'inflation des produits alimentaires. On voit bien ce qui est une forme de refus d'action, mais qui s'explique parfaitement. C'est finalement l'idéologie de la Macronie, une idéologie qui consiste à vouloir laisser faire le marché et qui considère que la régulation du marché se fera par elle-même et que, de toute manière, avec la fameuse théorie du ruissellement d'Emmanuel Macron, le marché sera bénéfique à la population. On voit bien que c'est pas le cas. On voit bien qu'aujourd'hui, la situation est intenable, que l'inflation est galopante et que nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui de créer une réponse qui serait une réponse publique à cette problématique. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de vraiment mettre en place une forme de bouclier social. Ce bouclier social, c'est faire en sorte qu'en effet, les plus pauvres, les plus précaires, mais l'ensemble de la population puisse avoir accès à des produits de qualité, des produits de bonne qualité, plus tournés vers le bio, vers des produits locaux. Et aujourd'hui, l'inflation ne permet pas d'offrir à la majorité de la population des produits de qualité. Et pire encore, et ça je pense qu'il faut en parler aussi, la faim est en train d'augmenter dans notre pays. Il y a des enfants qui arrivent à l'école, qui n'ont pas pu manger à leur faim et qui donc n'arrivent pas à travailler dans des bonnes conditions et c'est absolument insupportable. Nous avons eu plusieurs appels de la part d'associations d'aide alimentaire qui expliquent que pour elles aussi, elles n'arrivent plus à suivre, qu'elles n'arrivent plus à s'alimenter en produits pour répondre à la demande qui est une demande de plus en plus forte avec des familles entières qui n'arrivent plus à se nourrir. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse du gouvernement qui mise sur ce laisser-faire économique. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal que ce soit les supermarchés, les hypermarchés qui soient en train d'essayer de trouver des solutions à un problème qui est un problème public sur une problématique qui devrait obséder le gouvernement. Et j'ai envie de dire, quand on voit l'urgence de cette crise du pouvoir d'achat, de cette crise du pouvoir de vivre, hein, plus généralement, la crise sociale, une crise écologique qui est au plus haut, parce que quand même, nous vivons une période de sécheresse hivernale que nous n'avons jamais connue. Il est vraiment dramatique de voir que la priorité du gouvernement, c'est cette réforme des retraites.
Au niveau local, à Beauvais, par exemple, votre ville où vous êtes dans l'opposition, est-ce qu'il faudrait augmenter les aides pour les personnes qui vivent dans la précarité en raison de cette inflation ? Vous avez parlé des cantines, par exemple.
Tout à fait. Aujourd'hui, il est essentiel de mener, de développer un certain nombre de dispositifs pour faire en sorte eh bien, que la puissance publique puisse mettre en place un bouclier de protection sociale dans un contexte voilà, de vie chère et de hausse du prix de la vie. Et donc pour ça, il est important que les municipalités, les collectivités locales prennent aussi leur part et jouent un rôle. Évidemment, c'est insupportable de voir que le gouvernement renvoie la balle parce que nous avons des collectivités qui ont des budgets de plus en plus limités. Il faut le dire, voilà, on n'a pas été aidé par le gouvernement qui, là encore, nous a fait un certain nombre de coupes budgétaires dans beaucoup de collectivités, alors même que nous devons agir. Et nous devons agir parce que nous sommes au plus près et confrontés au quotidien à ces situations. Une des premières choses à faire, c'est évidemment l'aide alimentaire, le fait d'aider les associations qui, aujourd'hui, en ont besoin, ont besoin d'aide, ont besoin qu'on compense drastiquement l'inflation qui fait qu'ils n'arrivent plus à se fournir autant qu'ils le voudraient en produits de première nécessité. Mais c'est aussi via l'action sociale, il faut savoir, voilà, via les CCAS d'un certain nombre de municipalités, et c'est le cas à Beauvais, nous devons avoir des dispositifs à la hauteur qui permettent d'aider les familles dans le besoin, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui parfois ont des difficultés aussi à joindre les deux bouts entre des logements qui sont de plus en plus durs à chauffer, parce que nous l'avons vu, nous avons des factures qui augmentent, l'alimentation maintenant, mais l'ensemble des secteurs économiques hein, et qui nous impactent au quotidien. Et donc, nous devons apporter des réponses parce que nous sommes les premiers confrontés. Vous savez, on dit toujours que être un élu local, c'est aussi être à portée de baffe. Mais plus globalement, en fait, c'est être à portée de toutes ces choses qui sont insupportables, qu'on voit et sur lesquelles nous sommes évidemment interpellés. Donc, nous devons agir et nous espérons qu'il y aura une réponse plus forte de la part du gouvernement parce qu'ils ont les moyens d'agir et que nous avons besoin d'être aidés dans ces dispositifs.
Roxane, lundi, le ministre Gabriel Attal veut durcir les conditions pour recevoir les allocations et minima sociaux quand on habite à l'étranger. Il souhaite que ces aides soient accessibles après 9 mois passés sur le territoire français contre 6 mois aujourd'hui. Que vous inspire cette décision ?
Ce qui est terrible finalement, c'est que nous sommes mobilisés, nous sommes nombreux à être absolument... horrifié par la hausse et la percée de l'extrême droite qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir en France, qui a complètement pris le pouvoir dans un certain nombre de pays d'Europe, même chez nos voisins. Voilà, évidemment, je pense à la situation en Italie. Et tout ça est dramatique et nous voyons ce mouvement se dessiner. Et nous ne combattrons pas l'extrême droite en légitimant et en banalisant les termes, les mots, les actions qu'elle préconise. Et donc, nous devons continuer à être toujours vigilants et à nous opposer à toute cette rhétorique qui consiste à imaginer qu'évidemment, il faudrait toujours durcir la situation vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis de l'immigration, alors que nous le savons, ça n'est pas le sens de l'histoire. Je parlais tout à l'heure de la situation climatique, les dérèglements climatiques ont déjà commencé à amener un certain nombre de situations de réfugiés climatiques. Nous savons que, évidemment, l'immigration, les migrations au sens large, vont continuer à augmenter dans les années qui viennent. Et donc, notre responsabilité n'est pas de céder à l'extrême droite qui, finalement, surfe sur les peurs, fait appel au plus bas instinct, parce qu'évidemment qu'il y a de la peur. Et quand il y a des crises, il y a une tentation qui est la tentation du repli. Mais nous devons être plus forts que ça. Et être plus forts que ça, c'est être à la hauteur de ce moment historique. C'est ne jamais, jamais, jamais céder à l'extrême droite, à ces mots, à ces termes. Et ce que fait Gabriel Attal, selon moi, est très grave. Malheureusement, ce n'est pas la première fois, il faut le rappeler. Le choix qui a été fait par La République En Marche, par la Macronie, ça a été de nommer pour la première fois deux vice-présidents du Front National à l'Assemblée nationale. Et donc, ceci n'est pas possible. Il faut remettre des digues, il faut refaire barrage. Je crois que c'est essentiel et c'est un vrai poison qui est en train de pénétrer notre pays quand on veut toujours, toujours stigmatiser un peu plus les immigrés. Et nous le savons, tout cela va avec un discours raciste plus large que nous devons combattre et sur lequel nous devons toujours rester vigilants.
Roxane, lundi, Emmanuel Macron a rendu hommage à Gisèle Halimi en s'engageant à inscrire l'IVG dans la Constitution. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
C'est une très bonne nouvelle, puisque Gisèle Halimi est une figure essentielle de l'histoire de notre pays. Elle a été une personnalité politique, une militante, une avocate remarquable et engagée, qui a mené des batailles qui... moi en tant que femme, mais qui parle à toutes et tous et qui, je crois, nous ont rendu un peu plus fiers. Ce qui est terrible, finalement, c'est que Gisèle Halimi mérite évidemment un hommage national, mais voir qu'aujourd'hui, le président Macron décide d'annoncer ça au cœur de la réforme des retraites, alors que la réforme des retraites va précariser d'abord les femmes, qui sont les premières concernées par des carrières hachées, par les inégalités salariales, par la précarité. Tout ça est malheureusement assez dramatique. Et je tiens à relayer l'appel de son fils qui a annoncé qu'il ne participerait pas à l'hommage, qu'il ne répondrait pas à l'appel du président de la République, parce qu'il était indigne de faire ça maintenant, alors que la réforme des retraites allait d'abord concerner les femmes et qu'il y avait finalement aussi un héritage de résistance, de militantisme et de mobilisation à porter. Et l'héritage de Gisèle Halimi, c'est de toujours continuer à combattre les inégalités là où elles sont, les injustices, et je crois qu'aujourd'hui, combattre les injustices, c'est aussi dénoncer, qui est une forme de double discours de la part du président de la République. Et donc, il faut d'abord et avant tout continuer à perpétuer cet héritage féministe en s'opposant notamment à la réforme des retraites.
Dernière question à Beauvais. Des collectifs féministes ont rebaptisé des rues et collé des affiches sur les vitrines à l'occasion du 8 mars pour rendre hommage aux femmes. En tant qu'élu de l'opposition, vous souhaitez que la mairie de Beauvais renforce la visibilité des femmes dans l'espace public en donnant des noms de femmes à des rues et des bâtiments publics ?
D'abord, un très 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 grand bravo à elle. Bravo à toutes les femmes de ce collectif, mais bravo à toutes celles et ceux qui aujourd'hui mènent une bataille essentielle pour la visibilité des femmes dans l'espace public. C'est une bataille qui m'est chère, que je porte en effet depuis plusieurs années maintenant au conseil municipal, puisque nous avions demandé dès le tout début du mandat, face à la majorité de droite, ce que nous puissions avoir en tête d'augmenter drastiquement le nombre de femmes qui donneraient leur nom à des rues dans notre ville. C'est un enjeu de visibilité. Nous avions identifié que seulement 3% des noms de rues ou de lieux à Beauvais portaient le nom de femmes. 3% en ne comptant pas évidemment les fleurs et les oiseaux qui avaient été d'abord comptabilisés par la municipalité pour annoncer des chiffres un peu plus grands. Et donc c'est absolument dramatique, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Nous avions à l'époque déposé un vœu pour demander à ce que nous rattrapions ce retard en donnant un certain nombre de noms de femmes à des lieux ou rues dans Beauvais. Ce retard est loin d'être rattrapé, c'est une bataille qu'il faut continuer de mener. Je trouve ça très bien que ça ait eu lieu en ce 8 mars parce que c'est un jour important pour la conquête des droits des femmes et c'est important d'avoir mis en lumière la question de la visibilité des femmes dans l'espace public. Nous le savons, nous sommes trop souvent invisibilisés dans nos batailles, dans la parole qui peut être portée et plus largement dans l'histoire. Et donc c'était vraiment un très très bel hommage féministe et j'espère surtout qu'il annoncera de nouvelles conquêtes, de nouvelles victoires, que demain nous aurons plus de noms de femmes qui bâtisseront nos rues.
Merci Roxane Lundy. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale de Beauvais, membre de la direction nationale de Génération. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.